Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que le salut pour vous, en quelques mots? Donc, à LBSE, avant chaque week-end, on a un travail préparatoire. Voilà, qui nous oblige à réfléchir avant le cours qui va avoir lieu. Et celui de janvier donc, concernait la question du salut. Et puis l'intitulé du devoir, c'était « Interroge 5 personnes de ton église, d'âge, de culture et de sexe différents, et demande-leur comment elles définissent le salut en quelques phrases. » Donc on a toujours le choix entre deux sujets, donc moi j'ai pris le deuxième. Mais pour introduire le cours, en fait, un étudiant a lu les réponses qui ont été données par des membres de son église qui est plus conséquente en termes d'effectifs. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de vous offrir une partie de son échantillonnage. Et donc, l'étudiant, je l'ai contacté, il a eu la gentillesse de me donner son devoir et les réponses qui ont été formulées. Donc vous vous y retrouverez peut-être dans les réponses qui ont été données. Donc pour une personne d'une quarantaine d'années, elle répond à la question en disant que le salut, c'est d'abord une réponse à qui je suis, moi, être humain, habitant sur cette planète Terre. Un autre monsieur, retraité de 70 ans, dit que la réponse a varié pour lui au cours de sa vie. Et quand il était adolescent, il a plutôt voulu chercher le salut pour vaincre sa peur de la mort. Pour une autre personne d'une cinquantaine d'années, elle dit que Dieu me sauve du désespoir engendré par l'absurdité de la condition humaine sans son existence. Pour une autre personne, enfin, de 85 ans, elle dit que le salut est par grâce, est obtenu si nous croyons sincèrement en Jésus qui s'est donné en sacrifice pour nous. Encore une autre personne, oui, le salut est pour moi une décision de s'engager dans une relation avec Dieu. Et une autre d'une vingtaine d'années dit que le salut, celui qui possède le salut est délivré et a l'accès au paradis. Et enfin, Jésus, lui, me sauve de moi-même, dit une dernière personne, parce qu'il est mort pour moi et m'offre ainsi le pardon par grâce, je suis libérée de la culpabilité et je n'ai plus à être parfait. Alors voilà l'échantillonnage, il est ce qu'il est. Hein. En tous les cas, ces diversités de réponses montrent que le chemin varie d'une personne à l'autre. Alors certes, l'âge, le milieu social a un impact sur la vision du salut, mais c'est finalement que la pointe de l'iceberg, parce que notre histoire personnelle, la façon dont on a été enseigné, notre sensibilité, nos ascendants familiaux, nos parcours de vie avec leurs accidents, impactent l'idée que l'on se fait du salut. Alors en écoutant ces réponses, moi je me suis retrouvée dans certaines d'entre elles, et certainement que vous aussi. Alors on est tous d'accord, il n'y a qu'un salut en Jésus-Christ. Mais la perception de celui-ci est différente pour chacun d'entre nous. Mais toutefois, il y a des points communs qui apparaissent, des points fondamentaux qui apparaissent dans les témoignages. Alors, donc j'ai apprécié le cours de Michel Sommer sur le salut parce qu'il en donne en fait une vision globale. Et j'ai donc eu à cœur vraiment de vous partager de façon la plus synthétique possible ce que j'en ai retenu et compris. Donc, la première image que vous voyez là, c'est l'illustration d'une image que donne Nicolas Farelli, qui est pasteur, sur le salut. Alors voilà, il dit « Le salut, c'est comme un bus dont les plans ont été réalisés par Dieu le Père. La construction a été accomplie par le Fils. » Et la conduite a été confiée par le Saint-Esprit. C'est ce dernier qui ouvre la porte du bus pour que nous puissions y entrer. Alors on a parfois tendance à croire que le salut ne concerne que notre vie après la mort, comme l'a dit une jeune fille dans le témoignage, qui règle la question de ce qui se passe après. Et puis une fois que ça s'est réglé, ça n'a pas d'impact sur notre vie aujourd'hui au quotidien. Or, le salut concerne la transformation. Alors c'est pas faux hein, ce que la jeune fille dit hein, sur le salut qui règle la question d'après, mais elle règle aussi la question de ici et maintenant. Le salut concerne la transformation des croyants dès maintenant. Donc je vais souvent citer des pasteurs ou des auteurs parce que le cours a été construit aussi comme ça. Donc Claude Becher explique que le salut chrétien est plus que pardon individuel vécu intérieurement ou individuellement en attendant l'au-delà. Ce salut concerne trois choses. Il est libération de l'emprise des forces du mal. Il est vie éternelle, mais qui commence dès maintenant, aujourd'hui, et commencement de la restauration d'un monde brisé. Le salut effectué en Christ produit des vies changées et des vies réorientées ici et maintenant. Alors, le salut va orienter notre façon de vivre avec les autres. Et le fondateur de l'armée du salut ira jusqu'à dire « Le salut sans le service n'est pas le salut ». Donc on voit le lien entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. Alors, le salut nous concerne certes individuellement, puisque c'est Jésus qui nous sauve, nous. Mais le salut désigne aussi dans la Bible différentes interventions de Dieu en faveur de son peuple. Et dans tout l'Ancien Testament, on voit ce salut mis en œuvre. La dimension communautaire est à prendre en compte. Et un autre pasteur, qui s'appelle Christopher White, explique « Notre expérience du salut n'est pas un biais nominatif pour le ciel. Nous ne sommes pas sauvés en étant cueillis un par un par Dieu et propulsés dans un paradis privé. Non, nous sommes sauvés en pénétrant dans l'histoire complète du salut en compagnie du peuple de Dieu. » Alors, au stade où on en est arrivé, on commence à comprendre qu'effectivement, le salut ne nous touche pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que communauté, mais aussi le salut touche la création tout entière. Alors, toujours Christopher White explique que le salut ne signifie pas que les humains seront extraits de la création pour être transférés vers un autre univers, mais que la bénédiction divine sera ramenée dans la création. Alors, quelques repères du salut dans la parole de Dieu, parce que jusqu'à présent, j'en ai pas donné. J'ai volontairement choisi de ne pas appuyer chaque affirmation qui est donnée là par la lecture des passages bibliques, mais je pourrais les donner pour ceux qui veulent creuser. Voilà. Dans l'Ancien Testament, le verbe « sauver », littéralement « ouvrir » largement ou « libérer », est employé lorsqu'on parle de la délivrance des ennemis dans les cas de bataille, de victoire dans la bataille et aussi dans le cas de guérison, mais aussi dans le cas où les gens étaient justifiés quand il y avait un procès dans un tribunal. Dans le Nouveau Testament, le verbe « sauver » est utilisé pour parler de sauvetage, de la noyade, pour parler de guérison, pour parler d'être délivré de la mort, mais aussi des dangers à la fois physiques et spirituels. Donc il y a bien les deux choses. Et dans le passage de Luc, bien connu, où les soldats interrogent Jésus, il est question précisément du salut qui délivre de la mort. Donc je vous lis quand même le passage, dans Luc 23, du verset 35 au verset 39. « Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Derrière les problèmes et dangers ordinaires et réels dont Dieu sauve, donc les ennemis, la maladie, la mort, la Bible pointe aussi un désordre plus profond, résultat de la rébellion et du péché contre Dieu. Dans la Bible, Dieu qui sauve est celui qui affronte le péché. Et la délivrance du péché a lieu déjà dans l'Ancien Testament, ça n'apparaît pas comme ça, où on trouve des passages où la conscience du péché individuel est bien présente et la nécessité du pardon est présente et la nécessité du salut est présente déjà à ce moment-là. Il est question de l'annonce d'une transformation du cœur déjà dans l'Ancien Testament, une transformation radicale. Et dans Ézéchiel, par exemple, on peut lire au chapitre 36, le passage aussi bien connu, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc il y a bien une question de transformation du cœur à ce moment-là déjà. Dans le Nouveau Testament, il y a une continuité au niveau des attentes du salut de Dieu. Le verset bien connu de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », signifie bien être sauvé du jugement de Dieu. Et avec Paul, il y a bien l'idée de l'extension du salut à tous ceux qui reconnaissent Jésus comme sauveur. Donc, vous l'aurez compris, le langage biblique du salut, il est bien englobant, il concerne à la fois les individus et les nations, il concerne le physique, matériel et le spirituel, le passé, le présent et l'avenir. Et ce langage biblique, en tous les cas, cette vision qu'a proposée Michel Sommer, je trouve qu'elle nous invite à résister à une vision trop étriquée qui séparerait finalement les délivrances ordinaires et matérielles d'une part aux délivrances spirituelles et éternelles d'après après la vie, d'autre part. Donc on voit là une logique et finalement les deux font partie de l'intention du salut de Dieu. Même si de manière radicale la délivrance du péché est primordiale. La Bible tout entière raconte l'histoire du salut, avec dès le début la délivrance d'Égypte et l'Exode comme moment capital du salut pour le peuple. Et ce salut s'accompagne d'emblée d'une alliance entre Dieu et le peuple. Et il en est de même pour nous. D'ailleurs, très vite, la mémoire de l'Exode et du salut est à transmettre de génération en génération. On somme aux gens de raconter cette histoire du salut. Et elle s'accompagne d'un appel à la mise en pratique de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc il est bien question d'une relation. Le Christ, signe de l'amour de Dieu, sauvera les pécheurs de la colère et de Dieu par sa mort et sauvera par sa résurrection. Donc le langage biblique, il est trinitaire. Le Père, par amour, choisit, il appelle, il envoie, il affermit et il consacre. Le Fils lui rachète, il marque de son empreinte et il ouvre un accès à la grâce. Et le Saint-Esprit, lui, par sa communion avec nous, garantit, renouvelle, conduit et nous sanctifie. Donc le langage biblique du salut n'est pas statique, il n'est pas figé, il n'est pas une fois pour toutes, mais il est bien dynamique. Alors dans Philippiens 2, je terminerai avec ça, Paul rappelle à chacun la nécessité de ce qu'il appelle mettre en œuvre son salut. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir, le faire, conformément à son projet plein d'amour. Donc je voulais conclure avec cette définition de Michel Sommer qui, à mon avis, résume assez bien l'essentiel qui nous concerne en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Le salut, c'est finalement un acte de délivrance par le sauvetage Un état de délivrance, c'est le résultat de cet acte. Et enfin, une dynamique de délivrance qui correspond à l'histoire du salut depuis le début jusqu'à aujourd'hui, de manière individuelle et collective. Un acte, un état et une dynamique.